Ce mardi 5 octobre, manifestation interprofessionnelle, manifestation organisée sur les bases suivantes. Premièrement, combattre l'assurance chômage. Deuxièmement, défendre les retraites. Troisièmement, augmenter les salaires. Micro-Rebelle était à Lens, où la manifestation s'est déroulée sous une pluie battante. Je vous propose tout d'abord d'écouter l'allocution du représentant de la CGT devant la sous-préfecture de Lens, allocution qui retrace les enjeux de la journée aux yeux des syndicats organisateurs.
Alors nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une manifestation, dans le cadre d'une journée d'action du 5 octobre pour dénoncer les régressions qui sont en cours, notamment sur la protection sociale et le service public. Le gouvernement a fait son choix déjà, il a fait le choix de la finance, ce qui démontre les réformes en cours sur l'indemnisation Pôle emploi et de nouveau la réforme des retraites qu'on nous met sur la table. Donc on cible à la fois les précaires, les retraités et les futurs retraités, le monde du travail, en soi-même, le monde du travail. Le gouvernement, lui, comme je vous l'ai dit, a fait gage à la finance. On prend l'exemple notamment de ces millions et ces millions qui ont été versés aux entreprises dans le cadre du quoi qu'il en coûte. Pour vous donner quelques chiffres, 100% des entreprises du CAC 40 ont été aidées et seulement 6 de ces entreprises ont eu des résultats déficitaires. Ces aides, ils ont été données sans contrepartie sur l'emploi et sur les salaires. Donc, un autre exemple aussi. On est là aussi, dans le cadre de cette manifestation, de cette journée d'action, non pas pour dire non, mais aussi dire oui, à un juste partage des richesses. Notamment, je rappelle que sur les profits qui sont enregistrés par le CAC 40, sur 100 profits, 67% des profits partent aux actionnaires, 27% à l'investissement et seulement 6% dans les poches des salariés. Et derrière ça, on a le dernier scandale financier qui vient de sortir, Pandora Papers, où on voit qu'on a des politiques qui sont impliquées et qui étaient en charge des deniers publics. On a énormément de questions à se poser entre les liens qui existent aujourd'hui entre la politique et la finance. Je vous donne un exemple. Il y a un nom qui sort là. Alors, je ne dirais pas que c'est marrant, mais comme quoi on peut avoir quelquefois du retour de bâton. On a Nicolas Perruchot qui est soupçonné d'avoir un compte aux Seychelles secret. Cet homme qui avait été l'auteur d'un brûlot sur le financement des syndicats et qui est notamment l'auteur d'une loi sur la transparence financière des comités d'entreprise. Vous voyez quand même, cette personne avait le culot d'aller dire comment il fallait faire alors qu'elle, derrière, elle est soupçonnée d'avoir son compte aux Seychelles. Donc il y a de l'argent. Hein, selon les rapports, les différents rapports, on voit qu'on évalue à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui s'échappent dans le cadre de l'évasion fiscale. Et derrière ça, d'autres dizaines de milliards qui, eux, s'échappent dans le cadre de l'optimisation fiscale par des montages financiers qui sont légaux en Europe. Tout cet argent-là manque cruellement aux services publics. On avait une estimation d'une ONG indépendante qui avait fait la simulation, 17 milliards d'évasion fiscale, dont 12 milliards attitrés aux entreprises, ça représentait 500 000 emplois dans la fonction publique hospitalière. Vous voyez, dans le cadre de la pandémie, on était dans le cadre de la pandémie, ces emplois qui manquaient, on aurait pu les financer rien qu'en récupérant ces milliards. Alors je vous disais que le gouvernement a fait son choix, puisque le choix du gouvernement, ce choix, c'est pas de lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale, de ne pas en faire une priorité. Non, son choix, c'est de suivre le diktat européen qui, pour, encore une fois, équilibrer et sauver ses marchés financiers, a injecté plusieurs milliers et des milliers de milliards dans le marché obligataire pour sauver ses bourses. Et au final, qui va payer? Qui devrait payer pour eux? Ben, c'est toujours les plus précaires, les plus fragiles, les salariés. Alors on avait raison d'être là aujourd'hui, on aura encore raison de militer et de s'organiser pour essayer de faire en sorte que tout ça change.
Nous avons tendu ensuite notre micro aux salariés, manifestantes et manifestants, avec une préoccupation, comment il et elle imaginent combattre les nombreuses attaques patronales et gouvernementales et comment il et elle imaginent ancrer localement un mouvement social sapé par les confinements successifs. Alors que la réalité de la lutte des classes se traduit aujourd'hui d'un côté par l'augmentation des licenciements et de l'autre par des dividendes records, d'un côté par le déclassement social et de l'autre par l'explosion de la richesse des capitalistes, il nous a semblé important de comprendre comment les salariés imaginent amorcer un véritable rapport de force et mettre en œuvre la voie d'une contre-offensive du monde du travail.
Les mobilisés toujours restent mobilisés. Maintenant, comment convaincre de nouveau, c'est compliqué. Ça profite forcément.
Ça profite, c'est-à-dire ?
Au patron et aux directions.
La réponse à toute cette question-là, c'est que c'est pas évident à mobiliser les personnes. Et c'est vrai que ça fait déjà des années et des années, voire des décennies, où il y a des problèmes avec le capitalisme. Et malheureusement, c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent, c'est toujours les mêmes qui s'appauvrissent. Donc maintenant, il faut se mobiliser. C'est pas évident. C'est financièrement, les gens, c'est pas facile à perdre une journée de salaire. Et ce sera toujours d'ailleurs de plus en plus dur même, parce que ce n'est pas les petits salaires qui pourront manifester et perdre une journée. Et donc il faut le faire quand même, parce que c'est que par la mobilisation on pourra trouver une solution à ce problème.
Toutes les familles de tout genre pour qu'ils se bougent. Il faut que tout le monde se bouge. Une mobilisation vraiment générale, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il faut que les familles se bougent pour récupérer ce que l'État lui vole, en gros. Pour moi, maintenant, je pense que la lutte sociale, ça va être la radicalisation totale. C'est-à-dire, il va falloir que les gens, qu'ils passent à l'extrême pour récupérer ce qui leur a été volé, point barre. Pour moi, c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas ça, ils vont nous bouffer jusqu'à l'os.
Moi, je dirais, limiter la consommation. Moins on consommera, moins l'industrie elle tombera, moins il y aura de pognon dans leur caisse. Voilà. Éviter d'acheter de l'inutile, les marques et compagnie.
Donc là, moi, je suis là pour Lutte Ouvrière, pour parler de tout ça, effectivement. On voit tout le monde voit les prix qui augmentent. Ce qu'on dit, nous, c'est que les salaires devraient suivre en prenant sur les profits. Et ça, on pourra la poser que dans un rapport de force. C'est pour ça que c'est bien qu'aujourd'hui, il y ait des gens, des militants, des travailleurs qui soient là en se disant il faut se battre pour ne pas se laisser faire par rapport au patronat qui licencie et qui ne veut pas rogner sur ses profits. En étant là aujourd'hui, c'est un premier pas et on espère bien que d'autres travailleurs se regrouperont dans les entreprises et ailleurs pour faire face à l'offensive du patronat.
Moi, je rajouterais que ça fait trop longtemps que ça dure, que les salaires n'augmentent pas, quoi. Hein? Ça fait trop longtemps, quoi. Hein? C'est pas d'aujourd'hui et voilà, il faut se battre. Il faut se battre.
C'est pas possible de vivre avec des salaires de misère, quoi. Et puis, il faut se défendre.
Dans ma boîte, chaque NAO, des demandes salariales. Il y a la question aussi du partage de la richesse qui se pose. Jusqu'à présent, nous, on a une participation en bénéfices qui est versée, hein, participation Mais on pourrait demain avoir par un montage financier, ne pas l'avoir. Hein. Et derrière, on pourrait tomber sur une politique d'austérité. On voit bien que les gains de productivité qui sont faits par la mécanisation, ils ne sont pas redistribués à part égale entre le salarié qui, lui, reste seul sur le poste de travail et ce qui est remonté en dividende aux actionnaires. Ben, la température, c'est que les inégalités se creusent du fait qu'il n'y a pas ce partage de richesses, ce juste partage de richesses. On voit la jeunesse qui, elle, jetée dans les files d'attente dans les banques alimentaires, les associations pour pouvoir manger. Il y a derrière les plus précaires qui vont se retrouver avec la réforme Pôle emploi avec 300 euros de moins à la fin du mois. On est en train de jeter les gens dans une colère qui sera juste. Ce sera une juste colère. Et nous, organisations syndicales, on sera toujours là dans la cohérence de lutte pour justement renverser et construire autre chose que ce système capitaliste qui est en train de nous asphyxier.
Bah, en se battant comme on fait aujourd'hui, contre les profits, les salaires qui sont beaucoup trop élevés, quand un patron gagne 300 fois le salaire d'un ouvrier, c'est tout ce rapport qu'il faut changer, il faut de l'argent pour tout le monde pour vivre décemment, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. Avec mes collègues, ça se passe bien, mais il n'y a pas de motivation, ils ne suivent pas. Ils adhèrent complètement à notre discours, mais malheureusement, ils ne sont pas dans la rue comme aujourd'hui, quoi. Comment je l'explique ? Ben, y a beaucoup de gens qui baissent les bras, qui pensent que en fait, ce n'est pas en leur pouvoir, que ce soit avec un bulletin de vote ou que ce soit au niveau des élections en France ou au niveau syndical, ils estiment qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Donc, ben, nous, on y croit. On se dit que si on était là tous dans la rue aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de poids vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, voilà, je ne sais pas, il y a un ras-le-bol des politiques, il y a un ras-le-bol des syndicalistes. Hein. Faut aussi qu'on se pose les questions parce qu'ils ont tous l'impression qu'on ne fait rien. Alors que non, il y a des gens qui ont des convictions. On en rencontre plein autour de nous, là, sur la manif. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire passer le message. C'est dommage. Pourtant, c'est leur avenir. C'est leur avenir qui est concerné.
Avis en haut, faudrait déjà baisser le pouvoir des actionnaires et en redonner un petit peu plus au bas de la pyramide. Parce que les dividendes, les bénéfices, tout augmente, il n'y a que les salaires qui ne montent pas.
Alors aujourd'hui, il y a une très très mauvaise répartition. On distribue d'abord aux actionnaires et puis on ne distribue plus aux salaires. Et on en arrive à un point où, chez Veolia par exemple, on a des NAO tous les ans qui sont à 0%, alors qu'on distribue tous les ans des dividendes de plus en plus importants aux actionnaires. Donc il faut stopper cette hémorragie et vraiment commencer à distribuer aux personnes qui exercent le travail en premier avant de distribuer aux actionnaires, même s'il en faut aussi. Il faut une répartition qui soit juste et non pas unilatérale comme ça a lieu aujourd'hui.
Déjà, le problème, c'est que tu as beaucoup moins de monde à l'heure actuelle gréviste, vu que tout le monde y est tenu au collet par rapport à son salaire. Une journée de grève, en gros, tu perds 70 euros. 70 euros pour un couple où il n'y a qu'une personne qui travaille, c'est énorme. C'est le plein de la bagnole sur le mois, c'est la moitié des courses. Donc, on comprend que les collègues suivent plus les mouvements de grève, mais... À un moment ou à un autre, il va falloir que tout le monde se réveille un petit peu et qu'on se dise aussi, si on veut plus, bah, va falloir qu'on fasse des bonnes manifs comme on a fait il y a 15-20 ans. Parce qu'il y a 15-20 ans, on avait du poids et on arrivait à avoir ce qu'on voulait.
On essaye de plus en plus de remotiver les troupes, comme on dit, mais comme on dit mon collègue, et effectivement, il faut qu'on reprenne le pouvoir de force qui est important dans ce genre de négociations. Malheureusement, la situation Covid et la situation de la société à aujourd'hui fait qu'on est arrivé dans une société un peu individualiste. Chacun pense à soi et on a du mal à rassembler, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience que sans pouvoir de force à aujourd'hui, la négociation salariale est de plus en plus dure et il faudra passer par là pour se faire entendre et puis qu'on cesse un petit peu cette situation qui, pour moi, depuis une dizaine d'années, même bien plus, mais vraiment depuis 10 ans, on ressent qu'elle est de pire en pire. Aujourd'hui, chez nous, chez Veolia, on nous a fait miroiter depuis un an et demi qu'on était qu'on était les meilleurs, qu'on était une profession primordiale avec des SMS de remerciements tous les 4 semaines. Merci pour ce que vous faites pendant le Covid. Et aujourd'hui, encore à la dernière NAO, on est à zéro. Donc merci, mais on vous donne rien, on donne aux autres. Mais là, on est vraiment dans cette société d'individualisme qui fait tort justement et qui donne le pouvoir de plus en plus important aux patrons et qui en ont pris conscience. Ils savent que derrière, ils ont la force de pouvoir profiter de cette société d'individualisme.
On peut le constater. À l'écoute de notre reportage, le constat des inégalités et de l'exploitation est parfaitement posé. Les personnes que nous avons interviewées expriment clairement leur mécontentement. Mais, à l'opposé, les questions de l'organisation concrète de la riposte n'apparaissent que très faiblement. Les personnes interviewées ne viennent pas construire un mouvement social d'ampleur. Cette question de la remise en mouvement des travailleuses et travailleurs, elle est posée à l'ensemble des militantes et militants, et notamment aux forces syndicales. Par ailleurs, cette journée fait suite à la mobilisation des enseignantes et enseignants, le 23 septembre, et à celle des retraités, le 1er octobre. Une telle dispersion ne s'inscrit pas vraiment dans la construction d'une large contre-offensive.